La prédication de ce jour va porter sur le texte d'Évangile sur lequel s'appuie la cantate que nous écouterons tout à l'heure. C'est dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, mais avant de le lire, nous prions. Éternel notre Dieu, par ton esprit, enracine-nous dans la parole, celle que tu nous dis à travers les témoins de la Bible. Et enracine en chacun de nous cette parole qui est ton oui fidèle, qui est amour inconditionnel envers chacun et chacune de nous. Amen. Donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 36 à 47. Non, pardon, 49. La scène se passe après l'épisode connu des pèlerins d'Emmaüs, qui, après avoir reconnu le Christ ressuscité, retournent à Jérusalem retrouver les autres disciples pour leur annoncer qu'ils ont vu le ressuscité. Et les autres disciples leur disent « Oui, on le savait déjà, il est aussi apparu à Simon. » Et comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair, ni os, ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La paix soit avec vous. Et pourtant, cette parole provoque frayeur, crainte, trouble, doute, étonnement. Pas moins de 5 mots pour dire combien les disciples sont bouleversés devant la survenue du Christ ressuscité au milieu d'eux. Ce qui n'empêche quand même pas la joie, même si cette émotion semble participer au trouble, comme lorsque nous disons devant une bonne nouvelle « j'y crois pas » ou encore, comme nous entendons souvent, « j'ai du mal à réaliser ». Luc écrit un récit très élaboré, très construit, dans lequel la salutation de Jésus, une salutation au sens plein, pas une formule désinvolte qu'on dit en passant, cette salutation ouvre sur deux parties bien distinctes du texte. La première partie consiste à signifier qu'il s'agit bien de Jésus-Christ et pas d'un esprit ou d'un fantôme. Les marques sur les mains et les pieds, le morceau de poisson mangé, pointent vers cette corporéité réelle, bien que différente de la nôtre, puisque le ressuscité surgit d'un coup au milieu d'eux. Mais ce surgissement, ces marques, ce simple repas, qu'ont-ils à voir avec la paix ? Ensuite, dans la seconde partie du texte, le récit met en scène de multiples ouvertures à travers les paroles de Jésus et ce qu'il fait. Ouverture de l'intelligence des disciples, ouverture des Écritures, ouverture de l'universalité et ouverture à un don à venir, celui de la puissance d'en haut. C'est ainsi que Luc prépare le récit de Pentecôte et du don de l'Esprit au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec la paix ? Cette paix qui n'est pas celle qui met un terme à un conflit entre humains, celle qu'on inscrit dans un traité ou qu'on signe par une poignée de main, par exemple. La paix de la salutation, c'est la paix intérieure, qui est un don, qui est une œuvre divine en l'être humain, une œuvre divine restauratrice, recréatrice d'humanité. C'est une paix en forme de pardon, de délivrance, de guérison de celui ou de celle qui était courbé sous le poids d'un passé ou d'une faute, pour celui ou celle qui était étouffé par la peur ou par la haine ressentie ou subie. C'est la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix d'un être suscité à nouveau dans son humanité, ressuscité. Et l'énergie de cette paix, c'est le Christ qui surgit au milieu des disciples en partageant, qui partage la bonne nouvelle. Il est vivant, il est agissant, il est présent. Il est là. Lorsque Luc écrit son évangile, les temps sont troublés et sombres pour les disciples du Christ. La destruction du temple de Jérusalem en 70 a précipité la rupture entre juifs et chrétiens. Et ceux-ci, les chrétiens, sont également soumis à des persécutions de la part de l'Empire romain. Le monde semble craquer dans ses jointures, dans ses articulations, comme il craque encore aujourd'hui, y compris dans son soubassement écologique, puisqu'il n'y a de monde que sur cette terre. Entre danger et angoisse, entre agitation et déni, avec la violence qui joue toujours comme un facteur de division interne même aux groupes qui en sont les victimes, même aux communautés sur lesquelles elles s'exercent, eh bien, la salutation de paix pourrait sembler bien dérisoire si le récit de Luc ne nous délivrait de précieux indices, de précieuses indications sur le chemin, sur ce qu'est la voie de la paix. Parce que le don de la paix ne nous dispense pas de réfléchir et d'agir. Dans la première partie du récit, nous avons donc ce surgissement de Jésus-Christ au milieu des disciples. Un surgissement inattendu, alors même que certains l'ont déjà vu, alors même que d'autres ont déjà appris qu'il est ressuscité. Cet inattendu nous tient, nous, en alerte. Les lieux et les temps connus, les formules bien rodées, les rites anciens, les héritages transmis, les habitudes partagées ne peuvent pas circonscrire la survenue du ressuscité, c'est-à-dire le renouvellement du regard et de l'existence provoquée par l'événement du relèvement. La paix donnée n'installe personne dans le confort. Au contraire, elle dispose à la vigilance, à la veille et à l'attention. Une autre indication est celle des marques sur les pieds et les mains du ressuscité. Il les montre à ses disciples, des pieds et des mains percés, des pieds et des mains de crucifiés. C'est que la paix, ce n'est ni le déni, ni l'abstraction de la réalité. Les disciples, nous, ne serons pas à l'abri de la brutalité du monde. Nous ne serons pas dispensés, préservés, d'éprouver dans notre corps, c'est-à-dire dans notre être entier, car le judaïsme ne fait pas de différence, ne sépare pas le corps et l'âme. Nous ne serons pas dispensés d'éprouver dans notre être entier, dans notre quotidien, la complexité souvent douloureuse de l'existence humaine dans le monde, ou l'affrontement à la mort, les effets de la violence et de la haine. De toute manière, le monde n'a pas besoin de lénifiants discours, ni de pieuses illusions, ni de réflexions désincarnées. La résurrection n'efface pas la dureté du monde. Elle ne change pas le réel. Elle signifie la possibilité d'une autre manière de vivre dans le monde tel qu'il est. La troisième indication de la première partie du récit, c'est ce morceau de poisson que Jésus mange. Plusieurs manuscrits ajoutent à ce morceau de poisson un rayon de miel, un rappel des délices de la terre promise, mais aussi une évocation de la précieuse qualité du royaume. Dans cet acte de manger se lève toute l'importance de la commensalité, des repas partagés entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et ses contemporains, et jusqu'au dernier repas, celui qui fonde la scène, la communion de pain et de vin, de la parole et de la vie. En ce moment, au deuxième étage du foyer de l'âme, se prépare un repas, le repas du caspe, au cours duquel nous accueillerons tout à l'heure une petite quarantaine de personnes envoyées par le Centre d'Action Sociale Protestant. La paix n'isole jamais personne. Au contraire, la paix dispose au partage de ce qui fait vivre. Pain, parole, joie. La paix dispose à l'encouragement et à la joie du partage. Alors la seconde partie du récit trace les contours de la vie des disciples dans cette existence suscitée à nouveau, ressuscitée. Et cette existence est caractérisée par l'ouverture, une ouverture à la transcendance agissant non à travers des croyances, mais à travers une relation de don et de confiance. L'intelligence des disciples est ouverte, est toujours requise, non pour les répétitions d'une lecture littérale, mais pour des reprises, c'est-à-dire des interprétations renouvelées des Écritures, elles aussi ouvertes, offertes, comme la table commune d'un dialogue permanent. Dans ces Écritures, il y a la loi de Moïse, et ces textes de libération en forme de sortie du lieu de servitude et de passage de la mer ouverte, elle aussi, en forme de 10 paroles de vie, comme autant de promesses pour un horizon de vie commune, de communion. Un récit d'ouverture en forme d'errance dans le désert où s'enchaînent épreuves, révoltes et retours dans l'Alliance. Les livres des prophètes à la lucidité sans complaisance ou obstinément entre exil et rupture et avec espérance et persévérance s'élaborent la pensée d'un peuple témoin de l'Alliance. Et les psaumes, ces chants de joie et de peine, ces poèmes de l'âme humaine dans tous ses états où sont déployés la profondeur et l'intensité de la vie intérieure en prise avec l'origine et l'accomplissement de l'être. L'ouverture des Écritures et de l'intelligence pointe vers le don de la puissance d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit, le souffle vivifiant qui inspire aussi bien les prophètes que les disciples à Jérusalem, et puis Jean-Sébastien Bach et Matthias Wettmann, et nous-mêmes, et d'autres. D'autres interprètes et d'autres compositeurs dont l'écoute des œuvres nous ouvre un au-delà de nous-mêmes dans l'harmonie des voix et des instruments, et aiguise notre sensibilité et notre écoute pour entendre autrement et être autrement attentif au monde qui est le nôtre. Enfin, l'ouverture est également celle de l'universalité dans la diversité des nations, des langages, des cultures de l'humanité plurielle. La paix donnée n'est jamais affaire d'uniformité. Elle engage les disciples, elle nous engage en dialogue et en quête de langage pour traduire la foi. Ni univocité, ni monotonie, mais une dynamique, un aller vers les autres différents et y aller en bienveillance, en confiance, dans la justice. Aller vers les autres aussi avec imagination, pour expliquer et traduire les images et les expériences familières et singulières pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, et dans des situations et face à des défis que nos prédécesseurs dans la foi ne connaissaient pas. Vous en êtes témoin, dit le Christ, témoin d'un vivre autrement que selon ces logiques de destin, d'exclusion, de performance et de prédation qui condamnent à l'indifférence ou au désespoir. Nous sommes témoins d'un pardon toujours offert, d'une espérance toujours vive, d'une destinée d'éternité, d'un accueil toujours inconditionnel, d'une confiance toujours adressée et d'une résurrection, d'un relèvement, d'une renaissance toujours possible. Amen.